Avant de commencer cette conférence, je tiens à saluer la présence des camarades de PSA Aulnay en grève depuis 10 jours. Ils sont venus ce soir pour nous demander notre solidarité financière qui, j'en doute pas, a été donnée, notre solidarité morale qu'ils ont et que nous leur apportons bien volontiers en espérant que leur détermination les fasse gagner. Ce soir, la conférence du cercle Léon Trotsky va être consacrée à la Turquie, à son histoire et à la situation d'aujourd'hui. Mais avant de parler de la Turquie, je voudrais dire quelques mots à propos de l'intervention de l'armée française ces derniers jours au Mali. François Hollande a maintenant adopté la pose de chef de guerre. Il nous annonce que la France est entrée dans la guerre contre le terrorisme. Et qu'elle la mènera le temps nécessaire. Quant à ce qu'ils feront des terroristes, il répond, François Hollande, qu'ils vont les détruire. Ainsi, le président socialiste joue les George Bush au petit pied quand Bush décidait d'envoyer les troupes américaines en Afghanistan ou en Irak. Il marche sur les traces de Sarkozy qui envoyait les avions français bombarder la Libye sous prétexte de soutenir les rebelles libyens. Le prétexte est toujours le même. Chaque fois que les armées occidentales interviennent ainsi, on nous dit qu'elles le font pour des causes humanitaires ou pour sauver des populations d'une dictature odieuse. C'est ainsi que les dirigeants impérialistes sont partis à l'assaut de la dictature de Saddam Hussein quand, après l'avoir soutenu pendant 30 ans contre son peuple, ils ont découvert qu'il fallait en libérer le peuple irakien. De même, ils sont partis à l'assaut des talibans bien des années après avoir contribué à installer leur dictature, en découvrant bien tardivement qu'il fallait aider les femmes afghanes à s'en libérer. Et ils ne se sont rendus compte de l'existence du peuple libyen que le jour où celui-ci a commencé à ne plus supporter Kadhafi, ce dictateur avec lequel les dirigeants occidentaux ont fait de si bonnes affaires. Il faut dire que dans le cas de l'Irak, comme dans celui de la Libye, il y avait l'opportunité de mettre la main sur les puits de pétrole de ces deux pays. Visiblement, ça aide. Alors François Hollande, loin du changement, est dans la continuité de toutes ses interventions militaires, y compris de certaines qu'il critiquait avant qu'il soit élu président. Cette fois encore, on nous dit qu'il s'agit de sauver des populations qui sont en butte à une dictature. Et en effet, depuis que les groupes djihadistes ont imposé leur présence aux populations du Nord Mali, celles-ci subissent des exactions odieuses. On comprend donc qu'au Mali, dans cette situation dramatique, beaucoup voient l'arrivée des troupes françaises avec soulagement, en pensant que c'est au moins provisoirement, un moindre mal. Mais pas plus dans cette intervention que dans les autres. L'objectif n'est de sauver les populations. Si la France maintient des troupes en Afrique depuis 50 ans, depuis la fin de la colonisation, c'est pour y jouer le rôle de gendarme et se maintenir dans ce qu'elle considère comme sa zone d'influence. Plus précisément, il s'agit de maintenir la possibilité de faire des affaires pour les grands groupes capitalistes français, les Bouygues, les Bolloré, les Areva. Dans ce cas précis, il s'agit d'empêcher que l'instabilité au Mali puisse s'étendre au Niger voisin où se trouvent les mines d'uranium d'Areva. Cette présence militaire dans une grande partie de l'Afrique, cette mise en coupe réglée par les trusts français, vont de pair avec le maintien de gouvernements et d'appareils d'État alliés de l'impérialisme français, et pour cela corrompu. plus soucieux de s'enrichir sur le dos de la population que de la défendre. On l'a vu dans le cas du Mali, où lorsque les djihadistes sont arrivés, l'armée malienne a détalé, sans demander son reste, en leur livrant la population. Aujourd'hui, alors que l'armée malienne reprend le terrain sur les traces de l'armée française, on apprend déjà qu'elle se livre à un certain nombre d'actions de représailles contre une partie de la population, en l'accusant d'avoir été complice des islamistes. Au point qu'on peut déjà se demander quelle nouvelle catastrophe, quel nouveau massacre se prépare avec la reconquête du Nord Mali par l'armée française et par les armées des pays africains, dont aucune n'est réputée pour son respect des populations. Et c'est vrai, bien sûr, y compris de l'armée française. Que l'on se souvienne simplement de son rôle au Rwanda. Alors nous dénonçons cette intervention militaire comme nous avons dénoncé toutes les autres. Parce que même si elle peut soulager très provisoirement le sort d'une partie de la population, elle n'est là que pour continuer à maintenir le même ordre injuste. Et c'est pourquoi on peut être sûr qu'à terme, elle ne fera qu'aggraver encore la situation. Exactement comme cela s'est passé en Irak, en Afghanistan, en Libye, l'intervention de l'armée française sera nette plus de vocation de terroriste qu'elle ne pourra en supprimer, comme dit si délicatement François Hollande. Et l'armée française est peut-être ainsi en train de s'enfoncer dans un bourbier sans fin. Il faut en finir, non seulement avec la présence militaire française en Afrique, mais avec la présence de l'impérialisme, de ces grandes sociétés capitalistes qui sont les agents de l'exploitation et qui empêchent précisément les peuples d'Afrique de se diriger eux-mêmes, de se défendre eux-mêmes contre toutes les formes d'oppression, qu'elles soient le fait des dictatures en place ou qu'elles soient le fait de groupes islamistes qui sévissent aux confins du Mali et du Niger, de la Libye et de l'Algérie. Alors nous disons, à bas l'intervention de l'impérialisme français, hors d'Afrique les troupes françaises. Et pour parler de la Turquie ce soir, je passe maintenant la parole à mon camarade Rémi Adam.
L'assassinat début janvier en plein Paris de 3 militantes kurdes a rappelé à bien des militants des heures sanglantes qu'ils ont connues dans le passé. Et on ne peut que partager l'émotion de celles et ceux qui ont manifesté pour dénoncer ces crimes dont on ne connaîtra peut-être jamais les auteurs ni les commanditaires. Ils viennent rappeler que le gouvernement de la Turquie, le pays dont nous allons parler ce soir, est encore loin d'avoir donné une solution à la question kurde. Le peuple kurde doit encore lutter pour ses droits élémentaires et des militants continuent à mourir. Nous lui affirmons ici toute notre solidarité. Depuis des décennies, la Turquie offre à l'impérialisme un point d'appui et un relais pour sa domination. Sa situation géographique entre l'Europe et l'Asie lui a conféré durant la guerre froide le rôle de poste avancé dans la politique d'encerclement de l'Union soviétique. La taille de son territoire, la stabilité de son État, l'importance de ses forces armées en ont fait une pièce maîtresse des États-Unis sur l'échiquier du Proche et du Moyen-Orient aux côtés d'Israël. Le chaos irakien à l'est, comme la guerre civile en Syrie, au sud de son territoire, rappelle cette place centrale, mais aussi les menaces d'un embrasement généralisé qui pèse sur les peuples de cette région. Depuis 10 ans, l'AKP, un parti qui se définit lui-même comme modéré ou post-islamiste, dirige le pays sans discontinuer. Certains y voient un modèle de développement et de gouvernement pour d'autres pays, à commencer par les pays arabes, où les bouleversements politiques se sont accélérés ces 2 dernières années. Elle offre le visage rassurant pour leur classe dirigeante d'un régime stable, qui maintient des apparences démocratiques et qui est parvenu à contenir ou réprimer de longue date dans le mécontentement des masses populaires. Du point de vue des statistiques et des intérêts de la bourgeoisie, la situation paraît florissante. Le pays a connu, depuis une dizaine d'années, une croissance annuelle de 5 à 10% qui lui a permis de tripler son PIB et de se hisser, selon ce critère, au 18e rang mondial. L'économie est même parvenue jusqu'à une période récente à échapper aux effets dévastateurs de la dernière crise financière. Des commentateurs parlent de miracle économique. Le journal The Economist a même qualifié avec admiration la Turquie de Chine de l'Europe. Au véritable pont d'or construit pour les capitalistes par les gouvernements successifs s'ajoute en effet une législation et un droit du travail qui leur sont plus que favorables. Cela explique pourquoi la Turquie est devenue une terre d'accueil et une plateforme d'exportation pour nombre de grands groupes internationaux comme Ford, General Electric, AXA, Renault ou Lafarge. Pour les travailleurs, l'essor de l'économie se paie au prix fort. Dans une note destinée à attirer les investisseurs étrangers, le gouvernement en convient à sa manière, et je le cite. Le lieu de travail est une institution que les Turcs chérissent particulièrement. C'est pour eux un endroit privilégié pour exploiter ses talents et se dépasser. La conscience professionnelle des Turcs se traduit par une productivité élevée, un faible taux d'absentéisme et un classement au rang des pays dont la durée annuelle du travail est la plus élevée. Cela en dit long sur le cynisme et le mépris de classe des dirigeants. Mais cela lève aussi un coin du voile sur le degré d'exploitation des travailleurs. La classe ouvrière n'en dispose pas moins d'importantes traditions de lutte et de combativité. Elle représente une force contre laquelle les classes dirigeantes ont toujours tenté de se protéger, et cela, c'est une grande partie de l'histoire qui a mené à la Turquie actuelle. La Turquie, dans ses frontières actuelles, est issue de l'Empire ottoman. Cet empire fut fondé vers la fin du XIIIe siècle par des Turcs venus d'Asie centrale. Jusqu'à son apogée, il incorpora dans un ensemble relativement stable des peuples aux langues, aux traditions ou aux religions très diverses, du pourtour méditerranéen au Moyen-Orient, des Balkans à la péninsule arabique. À partir du XVIIIe siècle, cet ensemble entra dans une phase de déclin. La cour du sultan de Constantinople, aujourd'hui Istanbul, la bureaucratie, le clergé et l'armée devinrent un fardeau insupportable et les traits féodaux et rétrogrades ne firent que s'accentuer. L'expansion des puissances capitalistes occidentales accéléra ce processus. Le Maghreb, puis l'Égypte et l'isthme de Suez tombèrent sous la coupe du colonialisme français et britannique. Cette pression, ainsi que le poids d'un État sous lequel la société étouffait, rendirent impossible l'émergence d'une véritable bourgeoisie ottomane qui aurait été à l'échelle du vaste territoire de l'Empire. En revanche, les premiers mouvements nationalistes émergèrent en Europe centrale, dans les Balkans, aboutissant à l'indépendance de la Grèce en 1830, puis dans les territoires de langue arabe, un peu éloignés de l'État central. Les puissances coloniales occidentales voulaient mettre la main sur tout le pourtour méditerranéen et au-delà. Elles jetèrent de l'huile sur le feu en appuyant ces différents nationalismes contre le pouvoir central siégeant à Constantinople. L'Empire devint, selon l'expression de Rakowski, un champ ouvert aux menées capitalistes et impérialistes de tous les pays, et de fait, une semi-colonie du capital européen. Créée en 1853, la Banque impériale ottomane fut le symbole de cette domination. C'était une banque privée, franco-anglaise, qui contrôlait l'émission du papier-monnaie, les opérations de trésorerie du gouvernement, comme ses emprunts à l'étranger. Après la banqueroute de l'État en 1875, une administration de la dette dirigée par les puissances impérialistes fut créée. C'est elle qui perçut directement les revenus tirés du monopole du tabac et du sel, les impôts sur les alcools, la pêche et la soie. Cette mainmise s'étendit aux concessions maritimes et ferroviaires, aux privilèges douaniers et à toute une série d'avantages répertoriés sous le terme de capitulation. Ces capitulations permettaient aux entreprises étrangères de piller le pays comme bon leur semblait, sans avoir, ou presque, à verser le moindre impôt à l'administration ottomane. Au milieu du XIXe siècle, les jours de l'Empire semblaient compter, au point que l'expression le désignant comme « l'homme malade de l'Europe » paraissait en annoncer la mort certaine. Sous la pression du capital européen et des fractions les plus avancées des classes possédantes, le régime tenta de se réformer. Le sultan de Constantinople, Mehmed II, adopta les signes extérieurs de la modernité. Il critiqua le port de la barbe, se déplaçait en bateau à vapeur, s'habillait en costume trois pièces et troqua le turban contre le fez. Le code du commerce et le code pénal furent copiés de leurs équivalents français. Mais ces décrets ne touchaient pas aux privilèges des grandes familles et des propriétaires fonciers, et les caisses de l'État restèrent vides. En 1876, un coup d'État porta le sultan Abdulhamid II au pouvoir. Il suspendit la Constitution et renvoya le Parlement. Deux ans plus tard, la guerre contre la Russie s'acheva en déroute. Cette fois, c'est la Bulgarie qui échappa presque entièrement au contrôle de l'Empire, de même que la Bosnie et l'Herzégovine qui furent placées sous l'occupation et administration austro-hongroise. La Serbie et la Roumanie prirent leur indépendance. Pour se maintenir, quel que soit le sang à verser, et pour conserver les débris de l'Empire sous leur coupe, les dirigeants s'appuyèrent sur les haines nationales et religieuses. Jusqu'en 1908, le régime d'Abdulhamid perpétra des meurtres de masse, en premier lieu contre la communauté arménienne. C'est l'opposition dite « jeune turque » qui incarna de la façon la plus résolue la naissance du nationalisme turc. Née dans l'exil et dans la clandestinité, elle était le fait d'intellectuels et de fils de la bonne société, se réclamant d'idées libérales et modernisatrices, inspirées par l'évolution des États européens contre le féodalisme ottoman. Leur ambition était de forger un État à partir des territoires de l'Anatolie, situés dans la partie asiatique de l'Empire, ainsi que de la Thrace, sa partie européenne encore majoritairement peuplée de Turcs. Le comité Union et Progrès constituait la direction de ce mouvement. Ses partisans recrutaient dans les casernes et jusqu'à l'école d'état-major. Après la fermeture de l'université durant trois décennies, l'armée était la seule institution offrant aux fils de la petite bourgeoisie des moyens de formation et des perspectives d'ascension sociale. Ainsi que l'écrivit à l'époque Trotsky, le corps des officiers était devenu, je cite, « le centre du mécontentement et de l'esprit de révolte ». Ainsi, l'État organisa lui-même, en son sein, l'avant-garde militante de la nation bourgeoise en formation. À l'été 1908, il y eut un coup de force d'officiers mené par Enver Pacha. Ce coup fut qualifié de révolution des jeunes Turcs et contraignit le sultan à rétablir la constitution suspendue en 1876, puis à convoquer des élections. Un vent nouveau se leva, faisant apparaître au grand jour des aspirations démocratiques et sociales. Des organisations ouvrières et des cercles socialistes, jusque-là traqués et brisés, se constituèrent. Les deux années suivantes, la première célébration du 1er mai, puis une véritable vague de grève. Mais le prolétariat n'eut pas le temps de s'organiser vraiment et de tenir un rôle. Le morcellement de l'Empire s'accéléra. La Bulgarie, puis l'Albanie proclamèrent leur indépendance, chassant vers l'Anatolie les populations musulmanes. La Libye tomba aux mains de l'Italie, tandis que la poudrière des Balkans explosait lors de deux guerres en 1912 et 1913. Témoin de ces événements, Trotsky écrivit « Les gouvernements capitalistes des pays européens se rassemblaient autour comme autant de chiens affamés, chacun essayant d'arracher un morceau pour lui-même. » Dans le même temps, l'état d'exception suspendit les droits d'association, de grève et de réunion à peine proclamés. La censure s'abattit sur les journaux, tandis que se succédèrent soulèvements armés et répression sanglante. Durant la Première Guerre mondiale, les dirigeants ottomans se rangèrent derrière l'Allemagne. Mais les combats furent d'abord une succession de défaites et de désastres humains. Dans ce chaos, la population arménienne, au sein de laquelle s'étaient développées des organisations nationalistes et socialistes, fut désignée comme ennemi intérieur à éliminer. En 1915, les déportations, les privations de nourriture et les exécutions firent parmi elles autour d'un million de victimes. Au moment de l'armistice, en 1918, le pays déplorait en outre plus de 300 000 morts et 400 000 blessés. 200 000 déserteurs erraient dans le pays. La famine menaçait partout. Les impérialismes vainqueurs occupèrent militairement une grande partie de l'Empire. Puis ils commencèrent à s'en partager les dépouilles, notamment en découpant le Moyen-Orient en zones d'influence. Ils voulaient faire de même avec la Turquie, en la réduisant à un petit territoire en Anatolie centrale, c'est-à-dire dans la zone la moins développée, la plus aride et sans débouché maritime, donc condamnée au dépérissement. Quant au reste de l'Anatolie et de la Thrace, ainsi que les détroits du Bosphore et des Dardanelles, qui contrôlent l'accès à la mer Noire, les pays occidentaux voulaient se les répartir, comme ils voulaient se répartir le Moyen-Orient. Dans ce partage colonial, la Grande-Bretagne s'attribua à la province de Mossoul, à l'est, qui regorgeait de pétrole. L'Italie et la France s'approprièrent le littoral méditerranéen, tandis que la Grèce, dont le Premier ministre affirma vouloir renvoyer les Turcs dans les steppes de l'Asie centrale, elle occupa avec ses forces armées la ville de Smyrne, aujourd'hui Izmir, et la rive occidentale de la mer Égée. En 1920, le traité de Sèvres confirma ce dépeçage en accordant en outre à la Grèce les territoires européens restants de l'ancien empire et le rôle de gendarme de la région. Les détroits furent placés sous contrôle international et le régime des capitulations maintenu, tandis que l'armée turque était réduite à 15 000 hommes. Était envisagée enfin la création d'un État arménien et d'une zone autonome kurde, prélude à une possible indépendance. C'était sans compter l'indignation suscitée par l'occupation militaire et ce plan de partage qui provoquèrent une véritable éruption du sentiment national turc. C'est un militaire de haut rang, Mustafa Kemal, qui prit la tête de la guerre pour la libération de l'Anatolie. Ancien animateur du mouvement Jeune Turc, il avait notamment joué un rôle actif en 1915 dans l'échec de la tentative de débarquement allié à Gallipoli dans le détroit des Dardanelles. Il y avait acquis le prestige d'un sauveur de la patrie en montrant sa détermination farouche à ne pas céder une seule parcelle du sol turc, au prix, il est vrai, de la mort de dizaines de milliers de soldats ottomans. Kemal appartenait à cette génération d'officiers jeunes turcs acquis à l'idée qu'il fallait arracher la Turquie à son arriération, au poids des traditions, notamment religieuses, à la pourriture de la cour des sultans et à leur attitude de laquais des puissances européennes. Il était convaincu que pour imposer ses vues, les moyens militaires à sa disposition constitueraient le meilleur levier. Après la capitulation que constituait la signature du traité de Sèvres en 1920, il appela à désobéir aux ordres du gouvernement du sultan, puis réunit une grande assemblée nationale de Turquie à Ankara. Elle désigna Mustafa Kemal comme le chef du mouvement national. C'était un véritable défi aux puissances impérialistes. Jouant des rivalités qui opposaient ces dernières et de leur haine commune du régime soviétique, il noua à leur grande frayeur des relations diplomatiques avec celui-ci. Nous acceptons, déclara alors Kemal, de coopérer avec les bolcheviks russes dans leurs efforts de sauver tous ceux opprimés par les gouvernements impérialistes. De leur côté, les bolcheviks apportèrent leur soutien au combat des nationalistes turcs contre les puissances occidentales. En se faisant le porte-parole le plus résolu du sentiment national, Kemal parvint en quelques mois à rallier une large fraction de la population et à transformer une armée vaincue et démoralisée en une force soudée. Après 3 années d'affrontements acharnés, les troupes commandées par Mustafa Kemal écrasèrent les 200 000 soldats de l'armée grecque, réduisant à néant les plans de l'impérialisme. Cette victoire militaire, retentissante, permit d'imposer l'évacuation des troupes alliées qui occupaient Constantinople depuis 1918. En juillet 1923, le traité de Lausanne, signé avec les puissances impérialistes, consacra cette victoire. Le territoire actuel de la Turquie y fut dessiné. Toute l'Anatolie et la Thrace restaient turques. Le régime des capitulations était aboli, mettant ainsi un terme aux privilèges des capitalistes étrangers. Ceux-ci perdaient également leur mainmise sur les détroits. La minorité grecque d'Anatolie paya durement le fait d'avoir été enrôlé de force par le corps expéditionnaire grec durant la guerre. Ses biens furent détruits ou saisis, ses membres chassés du territoire turc par centaines de milliers. Une fois son pouvoir établi, Mustafa Kemal entreprit des réformes radicales. Au fond, il voulait accomplir la révolution bourgeoise en Turquie. Et il le fit à sa manière de militaire, c'est-à-dire au pas de charge. En 1923, contre les fractions les plus réactionnaires des classes possédantes, il proclama la République et l'abolition de la monarchie. Ce régime, qui avait imprimé sa marque pendant des siècles, était jeté à bas. Le sultan et sa famille furent contraints à l'exil. Un an plus tard, Kemal se débarrassa également du califat, cette institution qui avait fait des chefs de l'Empire les dépositaires de l'autorité religieuse suprême dans le monde musulman. Les ordres mystiques furent dissous, leurs couvents fermés, leurs biens dispersés, le culte des mausolées et les pèlerinages interdits. Au fond, Mustafa Kemal avait une haine profonde de la religion, comme le montre le texte suivant que je cite. Depuis plus de 500 ans, écrivit-il, en parlant de Mahomet, les règles et les théories d'un vieux cheikh arabe et les interprétations abusives de générations de prêtres crasseux et ignares ont fixé, en Turquie, tous les détails de la vie civile et criminelle. Elles ont réglé la forme de la constitution, les moindres faits et gestes de la vie de chaque citoyen, sa nourriture, ses heures de veille et de sommeil, la coupe de ses vêtements, ce qu'il apprend à l'école, ses coutumes, ses habitudes et jusqu'à ses pensées les plus intimes. L'islam, cette théologie absurde d'un bédouin immoral, est un cadavre putréfié qui empoisonne nos vies. Aujourd'hui, une déclaration pareille serait brandie par tous les salafistes pour appeler au djihad contre l'Occident, si elle ne venait pas justement d'un dirigeant d'un pays musulman. Kemal allait formuler plus tard les principes qui le guidaient et que les écoliers allaient apprendre comme les 6 flèches du kémalisme. Républicanisme, laïcisme, progressisme, populisme, étatisme et nationalisme. Pour assurer le succès de ces réformes et remettre en marche une économie où la majeure partie des tâches administratives, scientifiques ou techniques étaient assurées auparavant par les membres des minorités expulsées ou assassinées, Kemal ferma les écoles coraniques, puis lança l'implantation d'écoles publiques, mixtes, et la formation d'une armée d'enseignants. L'étude de la science et des connaissances modernes devint une priorité. Le calendrier occidental et le système métrique fut adopté. En 1930, la ville de Constantinople prit définitivement son nom en langue turque, Istanbul. La langue elle-même fut réformée en quelques mois. Celle complexe des couches privilégiées céda la place en 1928 au turc moderne, accessible au plus grand nombre. Un nouvel alphabet tiré de l'alphabet latin, plus adapté à la langue turque, remplaça l'alphabet arabe. Des droits furent accordés aux femmes, dont celui du divorce, mais aussi celui de voter, aux municipales, puis aux législatives, et ce alors que ce droit ne fut acquis en France qu'en 1945. C'était une orientation qui allait à l'encontre de toutes les traditions et des préjugés les plus rétrogrades. L'ambition de Kemal allait au-delà de ces transformations. Après un demi-siècle de pillage et de domination, la Turquie demeurait dans un état de sous-développement et de grande pauvreté. En 1923, elle ne disposait que de 4500 km de voies ferrées et d'aucune ligne à l'est d'Ankara, c'est-à-dire sur les trois quarts du pays. Kemal entendait ouvrir la voie de la modernisation et du développement. Il faut, disait-il, transformer nos bourgeois en une classe bourgeoise. Mais il voulait le faire sans se soumettre aux dictats de l'impérialisme qui étouffait l'essor de la bourgeoisie nationale. Cependant, tout cela se heurtait à l'environnement extérieur. Pour ne pas être banni par les grandes puissances, la Turquie s'engagea à ne pas modifier ses tarifs douaniers, très désavantageux pour elle, jusqu'en 1929, et à garder à sa charge 70% des dettes des sultans. Malgré cela, son économie fut privée d'accès aux marchés financiers durant près de deux décennies. La crise de 1929 et l'effondrement du commerce international qui en fut l'une des conséquences renforcèrent cet isolement. Se substituant alors à la bourgeoisie, l'État prit en charge les investissements d'infrastructures, mais aussi le lancement de certaines productions de base comme l'habillement ou le sucre. La plupart des entreprises qui appartenaient aux capitaux étrangers furent nationalisées par rachat. Un plan quinquennal et une coopération économique avec l'URSS furent établis. Pendant des années, la Turquie kémaliste suscita la curiosité, voire l'admiration, dans les pays encore soumis à la domination directe des puissances impérialistes et où des militants se demandaient comment y mettre fin. Elle allait servir bientôt de modèle aux dirigeants anticolonialistes ou tiers-mondistes, comme Bourguiba en Tunisie, Messali Hadj ou les dirigeants du FLN algérien, puis Nasser en Égypte. Les limites de ce volontarisme apparurent au fil des années. L'étatisme fut d'abord loin de sortir le pays de l'arriération. À la fin des années 30, la Turquie restait à plus de 80% rurale et sous-développée. Elle fut contrainte d'exporter à bas prix ses matières premières minières et agricoles pour importer les équipements indispensables à son industrie. Au cours de ces années 30, marquées par la quasi-paralysie du commerce international, puis la marche à la guerre, il était difficile de desserrer l'étau de l'impérialisme. Et il était encore plus difficile pour la bourgeoisie d'un pays pauvre d'effacer le retard accumulé et les décennies de pillage. La bourgeoisie se forma pour une large part au sein même de cet État et de sa bureaucratie. Sur le plan extérieur, elle tenta de se frayer un chemin en louvoyant entre les grandes puissances. Sur le plan politique, les transformations de Mustafa Kemal se heurta également à bien des résistances. Et d'abord à celles des minorités nationales qui commençaient à exprimer leurs propres sentiments nationaux. Dès 1925, des chefs de tribus kurdes se soulevèrent. Mustafa Kemal s'était appuyé sur leurs troupes pour remporter la victoire, mais il n'hésita pas à se retourner impitoyablement contre eux. La révolte kurde fut écrasée, ses meneurs exécutés. Elle fut suivie du déplacement de plusieurs centaines de milliers de personnes et d'une turquification sanglante du Kurdistan. Avec le reportage impérialiste de la Première Guerre mondiale, la population kurde était désormais divisée entre cinq États, la Turquie, pour la plus grande partie d'entre elles, l'Irak, l'Iran, la Syrie et même l'URSS. L'idée d'une région autonome, et a fortiori celle d'un État indépendant, furent renvoyées sine die par les Britanniques, eux-mêmes aux prises avec une rébellion kurde qu'ils noyèrent dans le sang en Irak. Mais prenant prétexte de ce soulèvement, Mustafa Kemal supprima toutes les libertés et mit au pas tous ceux qui, dans son propre camp, ne voyaient pas d'un œil favorable sa volonté réformatrice et tous ses opposants déclarés. La Turquie passa sous la coupe du parti unique, le Parti républicain du peuple, le JIP en turc, et de son chef, Mustafa Kemal, autoproclamé Atatürk, le père de tous les Turcs. En fait, le régime kémaliste protégea aussi la bourgeoisie de toute expression indépendante des masses pauvres. La propagande glorifiait le paysan, proclamé le vrai maître et propriétaire du pays. Et dans les campagnes, en l'absence de réformes agraires, l'oppression continua sous la coupe des grands propriétaires et des chefs religieux ou tribaux. En 1935, 35 000 villages sur 40 000 n'avaient toujours pas d'école. Quant à la classe ouvrière, le régime ne lui laissa aucune marge de manœuvre. Les socialistes restés fidèles à l'internationalisme en 1914 se réunirent autour de Mustafa Soupi, un intellectuel qui avait été gagné aux idées révolutionnaires lors de ses études à Paris. Rejoint par les militants issus des prisonniers de guerre en Russie et par ceux formés au sein du groupe Spartacus à Berlin, Mustafa Soupi fut à l'origine de la création du Parti communiste turc en septembre 1920. Kemal ne voulait pas tolérer l'existence d'une organisation parlant au nom de la révolution d'octobre. Il mesurait trop l'attraction que celle-ci pouvait exercer auprès des masses. Mustafa Soupi et les autres membres de la direction furent assassinés et la répression s'abattit sur ce jeune parti. Quant au code du travail, quand un code du travail fut adopté en 1936, il fut copié sur ceux édictés par les régimes fascistes en Italie et en Allemagne. Il interdisait toute grève et tout droit d'organisation. Le pouvoir prenait ses précautions contre toute force sociale ou politique qui aurait pu cristalliser la moindre opposition. En revanche, et malgré ses convictions anti-religieuses, Mustapha Kemal n'eut pas la même attitude vis-à-vis du clergé et de la religion. Plutôt que de la combattre de front, la religion fut mise sous le contrôle de l'État. C'est ainsi qu'en 1926 fut créée la Direction des Affaires religieuses, un ministère du culte qui était un premier renoncement à l'ambition laïque initiale de Mustapha Kemal. C'est ainsi qu'un État stable fut rebâti, doté d'une solide bureaucratie civile et militaire. Les bases du développement de la bourgeoisie nationale étaient jetées. En novembre 1938, Mustapha Kemal mourut d'une cirrhose du foie, car il ne détestait pas les soirées dans les cabarets et la consommation d'alcool. Cela n'ébranla pas le pouvoir. Son principal lieutenant, Ismet Inonu, lui succéda en continuateur et en gardien de sa pensée. En hommage à Mustapha Kemal, toutes les places des villes et des villages s'ornèrent de statues de ce héros national avec sa devise « Quel bonheur de pouvoir se dire turc !» Face à la menace grandissante d'une nouvelle guerre mondiale, puis au cours du conflit lui-même, les dirigeants alternèrent les gestes entre l'impérialisme français ou britannique, les traités de non-agression avec l'URSS, puis avec l'Allemagne. Restée officiellement neutre, la Turquie attendit opportunément février 1945 pour déclarer la guerre à l'Allemagne. La bourgeoisie s'enrichit considérablement durant la Seconde Guerre mondiale. Ses aspirations et ses exigences s'en trouvèrent décuplées. Cela impliquait de s'intégrer au commerce international, de pouvoir accéder au marché des capitaux et donc de renoncer au discours anti-impérialiste. Après 1945, avec la guerre froide et la naissance des blocs américains et soviétiques, la situation internationale se trouvait elle-même profondément changée. Pour leur part, les dirigeants des États-Unis étaient en position de force pour exercer leur pression et imposer leur politique dans cette région stratégique. La Turquie leur fit allégeance et elle fut ajoutée en 1947 aux bénéficiaires du plan Marshall. Elle intégra le Conseil de l'Europe en 1949, l'OTAN deux ans plus tard, mais aussi la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l'OCDE. Un corps expéditionnaire turc fut même envoyé aux côtés des troupes américaines lors de la guerre de Corée en 1950. En 1955, la Turquie signa le pacte de Bagdad qui devait réunir les dictatures alliées des USA et de la Grande-Bretagne au Moyen-Orient. Et ses dirigeants furent de fervents opposants aux nationalistes algériens, puis à Nasser, dont le langage radical et l'influence inquiétaient les grandes puissances. D'un État construit sur une opposition à l'impérialisme, la Turquie devenait un allié dévoué de celui-ci. Les dirigeants des États-Unis impulsèrent également un ravalement de façade du régime turc. Le système du parti unique fut abandonné. Dès 1946, un parti concurrent au JIP vit le jour, le Parti démocrate. Il était dirigé par plusieurs anciens cadres du parti de Mustapha Kemal, dont Celal Bayar, son dernier premier ministre et proche des milieux financiers, et Adnan Menderes, lui-même grand propriétaire foncier. Lors des élections de 1950, le Parti démocrate s'appuya sur les fractions les plus rétrogrades de la société, dont les rancœurs étaient attisées par le clergé, les grands propriétaires terriens et tous ceux qui avaient des comptes à régler avec le régime kémaliste. Ces forces sociales, en particulier dans les campagnes, qui considéraient Kemal comme un adversaire des traditions, de la religion, voire, horreur, un socialiste, voyaient leur revanche arriver. Le Parti démocrate s'empara des rênes du pouvoir pour une décennie, ouvrant ainsi une période de profonde réaction politique. Tout le fatras dont le régime kémaliste pensait s'être débarrassé refaisait brutalement surface. Le Parti démocrate adopta une série de mesures destinées à réintroduire en force les tenants de la religion musulmane, Des mausolées furent de nouveau accessibles. L'interdiction de l'appel à la prière en arabe fut levée. Des cours de religion à l'école, puis dans le secondaire, furent étendus. Il fallait désormais faire une demande pour en être dispensé. Des écoles d'imams furent ouvertes. Un institut islamique fut créé pour former les enseignants, ainsi qu'une faculté de théologie. Guerre froide aidant, ces années furent des années de plomb, de répression anti-ouvrière, ponctuées par de virulentes campagnes anticommunistes. C'est au cours de cette même période, en 1952, que les dirigeants américains, avec les fonds de la CIA et les conseils des dirigeants syndicaux de l'AFL-CIO, impulsèrent la création d'une confédération syndicale, la Turkish. Les dirigeants de l'impérialisme mettaient à profit les expériences accumulées dans les différents pays développés. Ils savaient notamment que la contestation sociale et les idées de lutte de classe se feraient un jour la voie. Par précaution, et avant qu'une pression sociale se manifeste, mieux valait donc construire par avance la bureaucratie syndicale à même de freiner et de contrôler les luttes futures. Les cadres de la Turkish furent formés par l'AFL-CIO et la Confédération reçut un flux permanent de conseils, de subsides et de sinécures. Par la suite, plusieurs de ses dirigeants allaient accéder à des postes ministériels. La Turkish reçut le monopole de la représentation syndicale sur le modèle de la législation américaine dite du closed shop. Elle était la seule organisation à pouvoir signer des conventions collectives et à pouvoir appeler à la grève lors du renouvellement de ces conventions, c'est-à-dire tous les 2 ans. Si dans une entreprise la moitié des salariés adhéraient au syndicat, celui-ci se voyait reconnu comme seul représentant des salariés. Étroitement encadré, dans les mains fermes d'une bureaucratie sélectionnée et pleinement intégrée à l'appareil d'État, ce syndicalisme-là devenait une assurance contre les mouvements sociaux. Mais à la fin des années 50, de larges couches de la jeunesse commencèrent à s'éveiller à la politique et à exiger des changements. Chômeurs et travailleurs se joignirent aux manifestations étudiantes contre le pouvoir. Au début de 1960, la situation était si tendue que l'état de siège fut proclamé. L'opposition au gouvernement du Parti démocrate fut menée de façon résolue par de jeunes officiers de l'armée représentant l'aile progressiste du kémalisme. Ils puisaient notamment parmi les discours tiers-mondistes, alors à l'honneur dans les pays pauvres, et celle des nationalistes algériens ou des partisans de Nasser, l'idée que la Turquie ne devait plus se soumettre de façon aussi vile à l'impérialisme et qu'elle devait reprendre la voie de la modernisation. En mai 1960, ces officiers formèrent un comité d'union nationale, puis renversèrent le gouvernement. Ne se contentant pas de ce coup de force, ils firent passer en justice le président de la République, Belal, le premier ministre Menderes et plusieurs membres du gouvernement, dont ils dévoilèrent les agissements à la tête de l'État, les tricheries électorales et la corruption. Menderes et 2 de ses ministres furent même pendus. Les officiers kémalistes promulguèrent une constitution plus démocratique qui prévoyait des élections libres. Sans en préciser les conditions d'application, ce texte reconnaissait pour la première fois le principe général du droit de grève, le droit de se constituer en syndicat et d'obtenir des conventions collectives dans toutes les branches. Ainsi, le coup d'État de 1960 desserrait un peu le carcan qui pesait sur toute la société. Cette nouvelle situation allait faciliter dans les années suivantes l'émergence de la classe ouvrière et de ses organisations. Après 1 an de gouvernement militaire, la vie politique reprit son cours. Le Parti démocrate, dissous, se reforma en Parti de la justice, derrière un nouveau dirigeant, Süleyman Demirel. Après quelques années, pendant lesquelles les kémalistes du JIP restèrent au pouvoir, le parti de Demirel allait revenir à son tour à la direction des affaires. Néanmoins, il avait compris la leçon, et Demirel se montra beaucoup moins radical contre les kémalistes que son prédécesseur Menderes. Il n'avait pas envie de finir au bout d'une corde. Comme dans bien d'autres pays, et suivant en partie leur exemple, les années 60 furent surtout marquées par une politisation croissante. Elles virent l'émergence de la classe ouvrière et des organisations se réclamant des idées socialistes et communistes. Les grèves se multiplièrent contre les bas salaires, et les conditions de travail. Les journées étaient alors fréquemment de 12 à 16 heures. Elles exigèrent que les droits proclamés dans la nouvelle Constitution, stipulant que la justice sociale est le fondement des institutions, soient appliqués. Devant le flot montant, le pouvoir chercha à l'encadrer et publia en 1963 les décrets organisant le droit de grève et la mise en œuvre des conventions collectives. Copiés de nouveau sur le Code du travail américain, ces décrets excluaient du droit de grève la majeure partie des fonctionnaires, de même que les travailleurs des secteurs de la santé, de l'énergie, des transports et de l'éducation. Sans convention collective, la reconnaissance par l'État d'une organisation syndicale demeurait impossible et la grève illégale. L'État, enfin, pouvait suspendre tout mouvement au nom de l'atteinte à la sécurité de l'État ou à l'intérêt national. Mais malgré cette volonté de reprise en main affichée par les kémalistes, l'agitation reprit. Il y eut plus de 600 grèves jusqu'en 1970, pour l'essentiel dans le secteur privé. Souvent, les travailleurs durent affronter les forces armées ou les bandes au service de patrons enragés. Balayant les obstacles que l'État et les patrons avaient dressés, beaucoup de ces combats imposèrent la reconnaissance des syndicats. La direction de Turkish, hostile à ces luttes, refusa de soutenir ses membres ou ses sections en but à la répression après plusieurs grèves importantes, notamment celle des verreries de Paşabahçe en 1966. Celle-ci avait duré près de 3 mois et bénéficiait pourtant de la sympathie de toute la population laborieuse. Menacés d'exclusion ou déjà écartés par Turkish, des militants des secteurs du verre, de la métallurgie, des pneumatiques et de la presse fondèrent un conseil de solidarité entre les syndicats. Cela fut à l'origine, en 1967, d'une nouvelle confédération syndicale. Ce fut la DISC, ce qui signifie la Confédération des syndicats ouvriers révolutionnaires. Les éléments les plus combatifs de la classe ouvrière quittèrent Turkish pour se retrouver dans DISC, en particulier les jeunes. En 2 ans, ils étaient déjà 100 000 membres. Dans le même temps, à côté des deux partis se succédant au pouvoir, apparurent à gauche les organisations qui n'avaient jamais pu se développer jusque-là. Le Parti communiste, dont les militants avaient été pourchassés depuis sa création, resta interdit et avec une faible influence. C'est le Parti ouvrier de Turquie, dont une partie des responsables était également des cadres fondateurs de DISC, qui allait populariser pour la première fois les idées socialistes et porter les espoirs de la génération qui s'ouvrait à la politique et aux idées de la lutte de classe. D'abord cantonné au milieu intellectuel et universitaire, ce parti attira la plupart des groupes révolutionnaires déjà existants, mais surtout des milliers de lycéens et de jeunes travailleurs. Le Parti ouvrier de Turquie, après sa fondation en 1961, fut un vivier pour ceux qui découvraient avec enthousiasme les textes de Marx, de Lénine, voire de Trotsky. Il fut également le premier à s'adresser à de larges masses au nom du socialisme. En 1965, il obtint 3% des voix, ce qui, grâce au scrutin proportionnel, lui permit d'envoyer 15 députés au Parlement. Même si ses dirigeants étaient incapables d'offrir une perspective communiste et révolutionnaire, à laquelle d'ailleurs ils ne prétendaient pas, ce parti semblait être un premier pas dans ce sens. Mais les questions fondamentales ne furent pas tranchées. Certains voyaient dans l'armée le rempart contre l'aile la plus conservatrice de la bourgeoisie, voire encensaient Mustafa Kemal, tenu, je cite, pour un leader anti-impérialiste, précurseur du socialisme. D'autres, influencés par le maoïsme ou par la résistance du peuple vietnamien, considéraient la paysannerie comme la classe révolutionnaire à laquelle ils devaient se lier. Des zones qualifiées de libérées furent revendiquées par diverses formes d'extrême gauche. Des groupes armés s'affrontèrent à l'armée. Malgré les mesures d'interdiction, la propagande et les intimidations, les grèves, de plus en plus politiques, longues et riches d'expériences, se multipliaient. Outre la lutte des verreries, il y eut en 1966 celle des travailleurs du textile de Koula. L'année suivante, vit notamment les ouvriers du pétrole s'opposer à la compagnie nationale et au gouvernement durant près de 3 mois. Pour écraser la contestation et briser la confiance croissante des travailleurs dans leurs forces, les classes dirigeantes recoururent à la force. Aux représailles policières s'ajoutèrent celles menées par les groupes nationalistes d'extrême droite. En 1969, ceux-ci se regroupèrent dans le Parti du mouvement nationaliste, dirigé par l'ancien colonel Turkaev. Les commandos paramilitaires, connus sous le nom de loups gris, commencèrent à pratiquer enlèvements, tortures, viols et assassinats au nom de la lutte contre le communisme. Le gouvernement de Demirel imputa toute l'agitation sociale au compte de la Confédération DISC et des agitateurs communistes. En 1970, en accord avec les kémalistes du JIP et les dirigeants de Turkish, il concocta un projet de loi limitant encore les droits syndicaux. Sans interdire formellement la DISC, forte alors de 500 000 adhérents, il signifiait son arrêt de mort. Cette décision fut perçue comme une attaque contre toute la classe ouvrière et entraîna une riposte massive. Préparée avec enthousiasme dans les entreprises, par des comités de résistance durant plusieurs semaines, la grève fut lancée pour les 15 et 16 juin 1970. Son écho fut immense et transforma ces journées en un véritable soulèvement contre le pouvoir patronal et l'État. À Istanbul, l'activité cessa au rythme des grèves qui démarraient et des cortèges qui se formaient d'usine en usine. Ils partirent souvent de très loin, sur les rives asiatiques du Bosphore et de la mer de Marmara, là où se situaient les grandes zones industrielles. Après des heures de marche, ainsi que des affrontements avec la police et l'armée, les travailleurs convergèrent, suivant trois lignes précises, déterminées à l'avance, vers la grande place Taksim, au centre d'Istanbul, objectif de tous les rassemblements. Des meetings se tenaient dans les quartiers populaires. On estime que 75 000 personnes participèrent aux manifestations de ce 15 juin 1970. Le lendemain, 16 juin, ils étaient le double, venus de plus de 160 entreprises. Malgré la fermeture de routes, de ponts et malgré l'arrêt des bateaux reliant les rives du Bosphore. En chemin, des ouvriers détruisirent l'usine de fonderie Emac, qui appartenait à l'un des frères du Premier ministre. Des avions militaires volaient à basse altitude pour intimider les manifestants. Dans le quartier de Kadıköy, la police tua deux d'entre eux. Devant l'assassinat de leurs camarades, des femmes lynchèrent un policier. Ailleurs, les travailleurs se heurtèrent aux tanks de l'armée. Au total, il y eut durant ces deux jours des centaines de blessés. Et pourtant, la détermination des travailleurs restait intacte. Rendez-vous fut donné pour le jour suivant, le 17 juin, et tous les manifestants étaient convaincus que les rues seraient de nouveau noires de monde et qu'ils feraient reculer le pouvoir. Cependant, les dirigeants de DISC étaient dépassés par cette riposte ouvrière qui prenait un caractère presque insurrectionnel. Et c'est eux qui acceptèrent de mettre un coup d'arrêt à la mobilisation. Le président de DISC, Kemal Türkler, lança le soir même un appel à la radio. Il déclara que les ouvriers devaient cesser leur mouvement, car ils ne devaient pas, je cite, « se heurter à l'honorable armée turque ». Dans la nuit, c'est cette honorable armée qui imposa l'état de siège, tandis que les dirigeants syndicaux appelaient les travailleurs à reprendre le travail. Ce soulèvement de la classe ouvrière révélait ainsi au grand jour les limites de DISC, cette organisation syndicale soi-disant révolutionnaire et de ses dirigeants. Après cet échec des travailleurs, la réaction passa à l'offensive. Et en mars 1971, la hiérarchie militaire fit un nouveau coup d'État. Elle renversa le gouvernement de Demirel en expliquant, je cite, qu'elle avait mis en échec les plans de conquête du pouvoir des marxistes, des groupes marxistes-léninistes cherchant à fonder une dictature du prolétariat. À la différence de 1960, ce coup d'État de 1971 était cette fois avant tout anti-ouvrier. L'état de siège fut prolongé, des tribunaux militaires institués et les manifestations interdites. Le Parti ouvrier de Turquie fut dissous pour activité séparatiste sous le prétexte de son soutien à la cause kurde. Les dirigeants des organisations du mouvement ouvrier ainsi que des dizaines d'anonymes furent torturés et abattus. Les activités syndicales furent bannies de la fonction publique. Les vannes, qui avaient été ouvertes par l'armée 11 ans plus tôt, étaient refermées brutalement. Après ce coup d'arrêt donné aux luttes ouvrières, l'affrontement fut suivi par une tentative de normalisation. Les militaires se mirent en retrait et le paysage politique fut en partie renouvelé. Les kémalistes du JIP tentaient depuis plusieurs années de se positionner plus à gauche pour capitaliser à leur avantage une partie de la contestation sociale. Pourtant, très liés au cadre de l'armée, ils prétendaient désormais représenter les victimes du régime militaire. Se présentant en social-démocrate et populaire en raison de son opposition au coup d'État de 1971, ce fut Bülent Ecevit qui allait être durant trois décennies le leader de la gauche social-démocrate. Ecevit et le JIP sortirent vainqueurs des élections d'octobre 1973. Pendant plus d'un an, le JIP, qui se réclamait du kémalisme et qui aujourd'hui se présente toujours en défenseur de la laïcité, fut associé au gouvernement avec la nouvelle formation islamiste, le Parti du Salut National d'Erbakane, un homme que les militaires avaient eux-mêmes rappelé d'exil pour briser une prévisible poussée à gauche. Un peu plus tard, en 1974, il y eut un coup d'État de l'extrême droite grecque à Chypre. Ce fut alors ce même Ecevit, se faisant le porte-parole du nationalisme turc, qui décida de riposter par l'intervention de l'armée turque à Chypre, où elle se trouve encore aujourd'hui. Ses discours démagogiques, teintés d'anti-impérialisme, servaient à donner le change. Il pensait capitaliser à son profit cette action, tout en détournant la population des vrais problèmes. Ecevit organisa donc ensuite des élections anticipées, mais ne les gagna pas. Les années suivantes virent se succéder toutes les combinaisons au pouvoir dans un front national, puis dans un front nationaliste, associant la droite avec Demirel et Ecevit pour le JIP, mais aussi les islamistes d'Erbakane et l'extrême droite de Türkes. Sous la pression de l'impérialisme, de la Banque mondiale et du FMI, ces gouvernements engagèrent une série de mesures d'austérité drastiques. Mais le fait notable, déjà, en ce milieu des années 70, 4 ans après le coup d'État de 1971, fut la remontée des luttes ouvrières. Le nombre de syndiqués avait triplé entre 1967 et 1975 pour atteindre 1 800 000, soit 42% des ouvriers. Les manifestations du 1er mai furent de nouveau le symbole de cette poussée. En 1976, la centrale Disk appela à une grande manifestation sur la place Taksim. Plusieurs centaines de milliers de personnes, reprenant les champs révolutionnaires, s'y retrouvèrent. Malgré les affrontements sur les piquets de grève et les meurtres, les travailleurs tenaient bon. Pour le 1er mai 1977, les dirigeants de Disk décidèrent d'une grande mobilisation. L'appareil d'État, qui avait en mémoire les journées de juin 1970, savait l'importance de cet objectif. Ces hommes de main se chargèrent d'organiser une provocation. Des tireurs furent installés sur le parcours de la manifestation, et tandis que la foule se massait place Taksim, des coups de feu venant des immeubles environnants prirent les manifestants pour cible. Cette fusillade et la bousculade qui la suivit firent 38 morts. C'était un avertissement sanglant qui montrait la volonté du pouvoir de briser la contestation. Ce bouillonnement permanent et l'impuissance des gouvernements à y mettre fin entraînèrent la mise en place d'une véritable stratégie de la terreur et de déstabilisation, notamment à travers le réseau que l'impérialisme américain et l'OTAN entretenaient en Europe, connu sous le nom de Gladio, le glaive en italien. Des attentats et des assassinats quasi quotidiens furent perpétrés. Cette terreur visa les organisations kurdes qui s'étaient développées depuis la fin des années 60 et notamment le PKK, fondé en 1978. Malgré sa dénomination de Parti des travailleurs, c'était une organisation qui portait avant tout les aspirations de la petite bourgeoisie kurde à avoir son propre appareil d'État, ou au moins son autonomie. Mais c'était une perspective que la bourgeoisie et l'impérialisme ne voulaient alors envisager à aucun prix. Face à cette offensive de la réaction, les dirigeants du mouvement ouvrier furent loin d'être à la hauteur. La Disk apporta son soutien à Ecevit et aux kémalistes, rebaptisés sociaux-démocrates, qui venaient d'être de nouveau appelés au pouvoir, en expliquant qu'ils formaient un rempart contre le danger fasciste. Le Parti ouvrier de Turquie, reformée après la loi d'amnistie en 1975, fit preuve du même aveuglement. De janvier 1978 jusqu'à sa chute en novembre 1979, le gouvernement d'Ecevit ne fit rien pour satisfaire les aspirations de la population, ni pour la préparer à affronter l'armée, dont il connaissait pourtant les agissements. Il laissa la situation dégénérer, au point de permettre à cette armée d'être en situation de se présenter comme un arbitre qui allait rétablir l'ordre. Le 1er mai 1979, Ecevit instaura l'état de siège à Istanbul au nom du maintien de la paix sociale. En juin, il s'en prit frontalement aux travailleurs, en bloquant les salaires et dévaluant la monnaie. À la suite d'un revers électoral cette même année, Ecevit fut finalement remplacé par Demirel. Mais surtout, l'armée avertit qu'elle ne tolérerait plus ce qu'elle appelait l'anarchie, le sabotage et le séparatisme. Les grandes puissances impérialistes ajoutèrent leurs propres exigences économiques. Le 24 janvier 1980, le nouveau Premier ministre Demirel s'exécuta et engagea un paquet de réformes, ouvrant davantage l'économie aux entreprises étrangères et sapant le pouvoir d'achat des travailleurs. 100 000 travailleurs furent licenciés pour motifs politiques dans les entreprises étatisées. Mais le pouvoir était impuissant à enrayer les effets de la crise. Le poids de la dette menaçait de paralyser l'activité. Les industries ne tournaient plus qu'à 20% de leur capacité. Quant à l'inflation, elle atteignit 1072% pour la seule année 1980. Dans ce chaos, les travailleurs restaient mobilisés. Il y avait eu 2 200 000 journées de travail perdues pour fait de grève en 1979. On en compta 5 400 000 pour les seuls 9 premiers mois de 1980. En février de cette même année, 11 000 ouvriers du complexe agroalimentaire d'État Tarish, près d'Izmir, occupèrent les usines dont ils avaient été congédiés et remplacés par des militants et sympathisants des partis de droite et d'extrême droite. Il fallut l'envoi de 10 000 hommes, appuyés par des véhicules blindés, des hélicoptères et des avions, puis l'arrestation de milliers d'ouvriers pour mettre un terme à leur lutte. L'armée, la police et les commandos d'extrême droite entendaient en effet briser durablement les travailleurs. Il y eut ainsi jusqu'à 20 assassinats par jour en 1980, près de 6 000 morts et 20 000 blessés entre 1975 et 1980, pour l'essentiel perpétrés par le département de guerre spéciale, chargé des opérations de contre-guérilla et de toutes les basses besognes. Le 1er mai 1980, l'état de siège et la loi martiale furent établis sur tout le pays. Des milliers de personnes furent arrêtées et parquées dans le stade d'Istanbul, tandis que les militaires paradaient sur la place Taksim. Ces provocations étaient le prélude de l'intervention imminente des forces armées. Et en attendant, je vais m'arrêter pour la pause.